Bonjour à tous et bienvenue sur Essadia.fr pour la suite de notre podcast numéro 11, toujours en direct du Festival du film asiatique de Deauville. Nous sommes le vendredi 7 mars, il est 1h38 et nous sortons de l'événement de la journée qui est la présentation du dernier Tsai Mi-liang, Les Chiens Errants, qui sort mercredi prochain en salle. C'est le retour à Taïwan pour Tsai Mi-liang après son hommage parisien à Truffaut avec Visage. Et au long métrage, après ses œuvres plus expérimentales comme Madame Butterfly ou Walker. Jérémy, toi qui l'as vu déjà deux fois, peux-tu nous dire de quoi parle son dernier film et si ce retour au cinéma est réussi?
Bah, Les Chiens Errants de Tsai Mi-liang, c'est l'histoire d'un père de famille et de ses deux bambins qui sont un peu désœuvrés, qui vivent un peu, c'est un peu la zézère, quoi. Et il y a beaucoup de pauvreté, de promiscuité. Et donc, on va les suivre, on va suivre leur errance durant 2h15. Et c'est dur, quoi. Et le retour est réussi, oui, c'est juste magnifique. Des plans d'une beauté plastique incroyable et une force aussi émotionnelle. C'est un film vraiment qui marque et qui nous retourne un peu, quoi. On en sort un peu tout retourné.
Alors c'est vrai que là tu l'as décrit, on a l'impression que c'est vraiment un drame social qui a l'air un peu misérabiliste dans ta narration. Or ça reste quand même une œuvre, comme tu le dis, très forte et très expérimentale. Est-ce que quelqu'un veut partir un peu sur la forme du film, Frédéric?
Oui, ça fait partie. Pour les gens qui l'ont vu, ça leur parle directement, je pense. Si le film, il ressemble beaucoup à Don't Want to Sleep Alone, qui était son autre film, qui est très âpre, vraiment sans aucune ou très peu de respiration. Il n'y a pas de petits moments de fantaisie, de parenthèse chantée et enchantée. C'est vraiment très. Très sombre jusqu'au bout, et c'est presque que des scènes tableau, en fait, des scènes en un plan séquence fixe la plupart du temps, où les personnages sont parfois eux-mêmes fixes et où la vie où c'est vraiment composé comme un véritable tableau, un tableau vivant, quoi. Et formellement ça donne des choses extrêmement belles. Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ce film, au début, quand le film a commencé, c'est que c'est très lumineux. Quand le film commence, on est quasiment que toujours dans des extérieurs jour, avec beaucoup de lumière, que ce soit en ville, que ce soit, on change beaucoup de lieu en plus, sur la plage, dans la forêt. Et je me disais, c'est complètement inhabituel avec Tsai Mi-liang, qui aime bien faire des lieux très fermés. Je venais de revoir Goodbye Dragon Inn le matin, qui est dans une salle de cinéma totalement hermétique et fermée, et là c'était complètement l'inverse. Et en fait, ça, ce postulat, il le tient 20 minutes. Au bout d'un moment, on finit par voir où est-ce qu'ils habitent, qui est un endroit au contraire très clos, très sombre, et là on alterne entre les deux. Et à la fin, c'est l'inverse, c'est vraiment complètement sombre. Donc en fait, la progression narrative et la descente aux enfers des personnages se fait aussi formellement avec ce postulat-là, qui est qu'on passe vraiment de lieux et de lumière extrêmement lumineuse pour aller vers quelque chose de plus en plus crépusculaire et de plus en plus sombre. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant avec ce film-là, parce que la narration se fait par la mise en scène, littéralement, quoi.
Alors après, je t'enverrai ça un peu parce que sur les 20 minutes justement d'ouverture du film, le film se passe aussi, et c'est une nouveauté parce qu'effectivement les films de Tsai Mi-liang sont dans des espaces clos qui sont assez reconstruits généralement, et il y a une utilisation du réel en fait dans le film à travers des prises de vue dans la rue, à travers tout un travail sur un centre commercial qui répond un peu à son travail d'ailleurs de Walker pour la rue et de Madame Butterfly dans le centre commercial. Donc il y a quand même une ouverture, disons, à un espace qui n'est pas mental mais un espace vraiment réel, qui est assez inédit, j'ai l'impression, dans son cinéma, en tout cas dans ses films de fiction. Marc, qu'as-tu pensé du film?
Ben, j'ai été quand même assez impressionné. Bon, c'est toujours un petit peu difficile de parler d'un film de Tsai Ming-liang simplement quelques instants après sa vision.
Et à 2 h du matin.
Voilà, qui plus est. Mais moi, ce que je peux noter, en plus de ce qui a déjà été dit et à laquelle je souscris, c'est le passage entre le côté végétal, donc avec les extérieurs en forêt, etc., et le côté minéral qui est vraiment très présent dans le film, puisque la pierre, il joue vraiment un rôle primordial, puisqu'on ces sans-abri habitent la plupart du temps dans des immeubles abandonnés, des immeubles délabrés. Et ces immeubles délabrés, en fait, deviennent vraiment très esthétisants. Notamment les murs qui ressemblent à des tableaux de Tapiès. Et justement, enfin, il filme ça. Donc il y a le minéral, il y a le végétal. Et au milieu de ça, il y a les personnes qui évoluent dans ce milieu-là. Donc ça fait vraiment un film très vivant et à la fois très, très charnel. Il peut y avoir des moments très froids, mais en même temps des moments de tendresse, du désespoir souvent, mais aussi un petit peu. Enfin, le père, donc le personnage principal du film, on a l'impression qu'il relativise quand même un petit peu les choses de temps en temps, en chantant et en se donnant bonne conscience. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans ce film, et donc il est très, très riche et vraiment très bon retour de Tsai Ming-liang.
Julien, tu voulais rajouter quelque chose sur le personnage du père?
Sur le personnage du père, mais justement quand Marc évoquait le côté végétal puis le côté minéral, moi je rajouterais, enfin, moi je l'ai vu clairement une analogie avec le côté animal. Enfin, moi, je vois une sorte de métaphore avec le père qui est un peu le chef de la meute de la famille et qui laisse pas ses petits, qui survit, on le voit dans certains plans, quand par exemple il lèche les os jusqu'à l'os. Et là, c'est vraiment à prendre au sens propre, quoi. C'est un truc bizarre. Et du coup, moi, je pense que ça se voit nettement dans beaucoup des plans du film. Et pour moi, la plus grande qualité, justement, du film, c'est ces différentes interprétations qu'on peut en faire. Et je pense qu'il n'y a pas. Enfin, là, on pourrait peut-être faire le tour de l'assemblée, et je pense qu'on ne voit pas du tout la même chose. Alors, il y en a qui ont fait des expériences sensorielles, particulièrement sur la fin, où il y a vraiment une sorte de décalage quand la femme, qui est supposée être la mère, arrive, on ne voit pas du tout la même chose. Et c'est justement intéressant, quand on revient sur la peinture, sur les tableaux que parlait Frédéric au début, c'est que chacun y voit ce qu'il ressent, quoi. On puise entre guillemets dans son âme pour voir quel est notre ressenti sur le film, quoi. Il n'y a pas de message unique, c'est vraiment, ça dépend un petit peu de chaque personne. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas.
Je dirais que c'est peut-être une des limites ou un reproche qu'on peut faire au film, qui est que de par cette structure plus son tableau qu'en conséquence. De par ce travail sur le temps qui finalement est tellement dilué que l'espace de liberté au spectateur est total, hein, et donc on peut se perdre dans un plan, perdre la narration, etc. On est plus proche d'un travail de vidéaste, hein, et on a l'impression de se retrouver devant une installation que devant un travail de cinéaste. Enfin, on peut avoir l'impression d'être plus devant une pièce dans un musée que dans une salle de cinéma
Mais moi, je
devant
suis
un
pas
film.
Trop d'accord, mais c'était Visage avait ça en fait. Visage, c'était exactement ça. Et celui-là, pas du tout. Tout simplement parce que le personnage, je trouve, il est incarné. Il y a des personnages avec qui on est en empathie, il y a une histoire quand même. C'est d'ailleurs une des particularités du film par rapport à tout ce que fait Tsai Ming-liang en général. C'est, on l'a dit, c'est un père. Là, c'est une grande première, hein, pour Tsai Ming-liang, parce que c'est toujours le même acteur, toujours son acteur fétiche. Et juste, c'est un être extrêmement solitaire qui n'a aucune attache, rien du tout. Là, il est papa. Et ça donne des séquences comme la scène du chou, ceux qui ont vu le film comprendront, mais dit quelque chose qui est incroyable, mais qui dit surtout toute la détresse sur un personnage. Ou comment dire, c'est la narration, c'est une histoire. J'ai l'impression de voir un film. Là où, par exemple, ce que tu viens de me dire, par exemple, j'ai l'impression que tu décris Visage, quoi.
Ouais. Non, mais alors, chez Visage, effectivement, c'était quand même beaucoup plus visible. Après, en prenant la scène du chou, donc bon, ceux qui ont vu l'histoire mercredi, de toute façon, donc allez le voir, vous pouvez comprendre ce dont on parle, fait aussi acte de performance pour l'acteur. Donc, pris dans la narration, effectivement, on est dans un système cinématographique, mais le système cinématographique est tellement dilué, découpé par scène, que cette scène peut être
Oui,
performance
mais
d'un acteur.
Oui, mais une performance, mais c'est très bien les performances, on va pas dire, c'est comme si on disait toutes les performances des acteurs hollywoodiens qui perdent 20 kilos et compagnie, on dit ah, c'est de la performance, on reproche pas le fait que ça reste du cinéma. C'est, je sais pas trop.
Je parle plus d'une performance artistique, qu'une performance, voilà, c'est pas une performance au sens hollywoodienne. C'est-à-dire voilà, une performance filmée par.
Ouais, mais ça raconte quelque chose. Cette séquence en elle-même raconte tout le film d'ailleurs.
Ça rejoint une structure quand même globale. Quoi.
Bah oui, parce que sans background et sans ce qui s'est passé avant, cette scène-là, elle a aucun sens. Et donc là, ça peut faire office de performance et on peut interpréter ce qu'on veut, mais en l'état, avec ce qu'on a vu avant, ce qu'on a subi avant aussi, parce que cette durée des plans, c'est aussi ça, c'est nous faire ressentir un peu l'emprisonnement et le désespoir de cet homme. Et donc après, ouais, cette scène du chou, c'est un peu le climax de voilà, c'est un peu le, il a tout accumulé et puis ce pauvre chou en prend plein la gueule, quoi. Et ça peut pas fonctionner sans ce qui s'est passé avant. Et donc il y a de la performance, mais c'est quand même voilà, il y a
Nicolas.
Non, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on a l'impression parfois d'être dans un musée à admirer des tableaux, mais je suis pas tellement d'accord non plus parce que justement, il y a des plans qui durent 10 à 15 minutes dans le film, mais il y a un vrai travail encore de mise en scène là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, l'avant-dernier plan qui est supposé être le plus long du film, il y a un vrai travail sur qu'on observe déjà précédemment sur les lignes de fuite et sur la profondeur de champ où la caméra va bouger très très doucement. On va même pas s'en rendre compte. À part si on regarde l'arrière-plan. Et c'est avec ces plans qui durent 15 minutes, 10 minutes, qu'on va se rendre compte de ce travail-là. Et donc, ça a aussi une signification narrative avec les personnages, avec leurs mouvements, avec leurs expressions. Voilà, donc il y a vraiment un travail intéressant à ce niveau-là qu'on ne retrouve pas forcément quand on admire les tableaux dans les musées. Et donc, pour rebondir sur ce que tu disais aussi, Jérémy, tu disais que la durée des plans faisait ressentir l'enfermement des personnages, mais j'ai remarqué aussi que dans tous les lieux clos, il y avait pas mal de portes ouvertes, c'est-à-dire qu'il y avait toujours une espèce de possibilité de pouvoir s'échapper, enfin voilà, c'était jamais vraiment un espace totalement clos, quoi.
Bah, notre regard, justement, parle là-dessus, et...
Voilà. On a envie presque de sortir, quoi.
Bah, c'est un peu l'idée de ce tableau, de cette fresque pendant des heures.
On imagine tout ce qu'ils peuvent fantasmer à ce moment-là.
Ouais, mais nous aussi, de toute façon, le temps il est dilué à mort et tout ce qu'on veut, c'est passer au plan suivant, quoi. On a envie de dire allez, ça y est, il faut qu'on s'en aille. Mais...
Donc tu as aussi vécu le film comme une forme de souffrance
Je l'ai vécu comme les personnages le vivent, en fait. Et donc, je me suis senti des fois prisonnier, comme eux peuvent se sentir prisonniers de leurs conditions.
Elvire, qu'as-tu pensé du film?
T'es dur, là.
C'est super dur, parce que je me suis endormie plus d'une fois.
Oui, on l'a vu
avant. J'assume, oui, on l'a vu à 22h, et c'est une expérience unique. Assez dur à vivre à 22h en deuxième jour de festival. Je rejoins un peu ce que disait Jérémy, en fait. On a envie de s'échapper, on a envie de passer rapidement au plan suivant, donc à chaque plan pendant 2h20. Mais c'est une expérience à vivre au moins une fois. Et donc je peux même pas dire, je sais pas si j'ai aimé ou détesté le film, en fait. Pour l'instant,
t'as fermé les yeux.
J'en sais rien, j'ai fermé les yeux, j'ai attendu que ça passe. Et j'ai vécu une expérience assez unique.
Non, mais comme disait Julien tout à l'heure, chaque personne va vivre le film différemment, hein, que ce soit au niveau de l'interprétation, mais même au niveau du ressenti. De toute façon, c'est tellement unique, comme tu le dis, que voilà.
On peut aussi noter qu'il y a. Le film a un côté film somme, enfin pas pour ceux qui ont fait un somme, mais pour ceux qui ont vu les autres films de Sammy Leon. Et notamment, on retrouve cette fascination de Sammy Leon pour ses univers en décomposition, qu'il a commencé à explorer, en tout cas dans The Hall, et c'était assez, assez important. Qui symbolise l'effondrement de la société d'une part, et cette omniprésence des fluides en tout genre, et notamment de l'eau, qui est également extrêmement importante à la fois pour la structure narrative et l'ensemble du film que pour la dernière scène où la maison elle-même se met à pleurer. Donc les décors sont inscrits dans un univers qui est complètement, où le solide en fait se fond dans le liquide et qu'on retrouve et qui traverse toute la filmographie de Tsai Ming-yong. Mm-hmm.
Il y a de ça aussi, il y a effectivement l'élément liquide et il y a aussi le thème qui est cher à Tsai Ming-yong, qui est la disparition des êtres et même des villes. Et donc là, on peut voir par exemple qu'il s'attaque à des chiens errants, enfin des sans-abri, donc des gens qui sont un petit peu en marge de la société, qui disparaissent eux-mêmes, qui se marginalisent eux-mêmes, puisqu'ils vivent vraiment dans des immeubles abandonnés. Malgré tout, ça arrive qu'ils aillent dans les supermarchés pour se restaurer gratuitement. Et ouais, il y a ce côté disparition, et même l'immeuble également, l'immeuble qui disparaît, etc., etc. Donc... Toutes les péripéties amoureuses des personnages qui effectivement apparaissent, disparaissent. À la fin, on peut même penser, enfin chacun c'est son interprétation, que le personnage féminin est même une apparition peut-être fantomatique. Enfin, ça, après c'est vraiment à chacun de décider ce qu'il voit dans le film. Hein, mais
le mot fantôme est dit littéralement dans le film. Donc C'est complètement ça, oui.
T'as une forme de, t'as la dilution du temps qui peut rejoindre une certaine forme de dilution des personnages aussi. Mm-hmm. On peut considérer d'ailleurs aussi que la maison est un personnage en soi, quoi. Et qu'après, transparaît en fait. Enfin, moi je le vois aussi comme ça, c'est que la maison pleure, mais en fait la femme pleure derrière. Et donc elle dépérit avec, quoi. Mais ça, c'est une autre interprétation, tu vois.
Moi je l'ai aussi vu comme un. On peut le voir aussi sous une forme. En fait, ouais, tout le monde disparaît et. Et en fait, on a l'impression que ces gens, ces sans-abri, c'est un peu les seuls encore présents, finalement. Et voilà, on les voit seuls dans le cadre à chaque fois. Mmh. Ils sont tous, c'est un peu un monde un peu post-apo et ils sont tous un peu... Et ils sont tous enfermés dans leur petit truc. Et finalement, même quand ils sont dans le centre commercial, oui, c'est blindé de monde, mais personne ne semble les voir vraiment. Ils sont en dehors du temps, en dehors de... Ouais. Ils sont un peu perdus dans les limbes, en fait.
Ils tiennent les pancartes, quoi. Ouais.
Et je reviens à Goodbye Dragon Inn qu'on a vu avec Marc ce matin. En fait, c'est exactement la même chose dans le cadre d'un cinéma, mais il y a presque un espèce de twist au milieu du film qui est, si ça se trouve, tous les personnages qu'on voit sont des fantômes. Et il y a cette question qui est posée là aussi et qui est laissée dans l'interprétation. Et tous les, à nouveau aussi, à Antoine Sleep Alone, c'est aussi des sans-abri qui cherchent toujours un endroit pour dormir, qui sont aussi des laissés pour compte. Ce film est complètement anti-amélien, c'est ça que je suis en train de dire, en fait. Ça rejoint complètement toute sa filmographie et c'est... Et c'est une nouvelle pierre à l'édifice de ce niveau-là, quoi. C'est vraiment toujours les mêmes thématiques, mais toujours traitées de manière assez différente. C'est comme vraiment les mêmes obsessions, mais avec quelque chose de nouveau, quoi. Donc c'est ça qui fait qu'il se répète en se répétant.
Ce serait intéressant d'ailleurs de voir ce que Claire Denis en a pensé, puisqu'elle était présente à la projection, et qu'on va l'interviewer. Hein, Victor ?
Oui, pas Frédéric.
Tout dépend de la réponse qu'on nous donne.
Non, mais on pourra effectivement lui demander. Alors, en tout cas, on va savoir un peu plus précisément ce que Claire Denis a pensé des films dont on va parler, vu qu'ils sont en compétition et qu'elle va leur remettre des prix. Ou pas, bah oui. Mais bon, si a priori les films n'ont pas de prix, c'est qu'elle les a pas aimés.
Quoique. C'était une évidence. T'es sûr?
On va commencer donc avec, on va commencer par pour les films en compétition avec Han Gong-ju, donc qui était projeté juste avant Les Chiens Errants, qui est donc le premier film signé par le jeune Lee Sung-jin, qui avait déjà été primé à Marrakech par Martin Scorsese, donc c'était en décembre dernier. En tout cas, au festival de Marrakech. Est-ce que, d'après vous, ce film méritait le prix donné par Scorsese ? Julien,
après, je ne sais pas s'il méritait son prix à Marrakech. Bon, on peut juste dire qu'à Marrakech, il y avait Eugen, par exemple, qui était à Vesoul. Donc, bon, c'était pas très compliqué de faire mieux, quoi. Si, il était dedans. non, il était dedans, donc bon, après, je sais pas. Après, on connaissait pas toutes les sections. Au niveau du synopsis, c'est l'histoire d'une d'une jeune étudiante, je crois qu'elle est en collège, pas sûr, qui en fait a... Ah oui, mais faut pas que je le dise, sinon je vais spoiler. J'ai le droit au spoiler, Victor?
Non.
Petit spoiler, mais pas...
qui a subi une grande souffrance avec une amie à elle. Et du coup, elle est obligée de se faire transférer dans un autre lycée à Séoul, le temps que les événements se règlent dans son passé. Et du coup, on a en fait un film en deux temps, clairement. C'est-à-dire qu'on a après l'événement, quand on la voit en fait finalement essayer de se remettre en fait sur de bons rails entre guillemets, et qu'elle est vraiment très refermée, et on a toute une période de flashback où en fait on suit chronologiquement les événements, ce qui semble un peu être vraiment à la mode dans le cinéma sud-coréen, qui rebrasse toujours un petit peu cette même sorte de flashback. On l'a vu avec Seonung, on pourrait citer également Fatal, c'est un peu dans le même genre. Et bon, c'est assez triste de voir un petit peu ces films un peu vus et revus, alors qu'il y a d'autres sujets qui pourraient être évoqués. On connaît plus maintenant les thrillers coréens, la The Chaser ou les autres trucs, enfin, il y en a quasiment plus, quoi. Maintenant, c'est plutôt, on vire vraiment vers le sociétal et vraiment aussi vers le... Enfin, vraiment un petit peu vers l'extrême, quoi. Même si le Cold Winter, c'était un peu la même chose, quoi.
Ce sont peut-être des choix de festival aussi, plutôt que de...
Ouais, mais j'ai l'impression justement que les films, en fait, sont faits un peu dans le circuit festivalier, et on sait que ça marche dans le circuit festivalier. Alors, on va parler de ça, parce qu'on sait que ça va être diffusé, et qu'on, voilà, que ces thématiques vont pouvoir un petit peu sortir de la Corée du Sud, quoi. Mais il y a beaucoup d'autres sujet tabou en Corée du Sud qui mériterait de faire des films et qu'on en parle, mais enfin, ça fait au moins 2-3 ans que c'est toujours un petit peu les mêmes sujets qui reviennent, quoi. Et en plus, les films marchent en Corée et ont des prix dans les festivals, donc on n'est pas prêt d'en avoir d'autres sujets de création, en tout cas au niveau du cinéma sud-coréen, quoi.
Mais ce qui est choquant surtout, c'est en plus du sujet qui se répète, c'est aussi la forme qui se répète. Ah, c'est le truc à coupler ensemble, c'est-à-dire cette... Moi, j'ai pas vu, je suis pas allé dans tous les festivals où vous êtes allés, donc j'ai pas vu tous ces films coréens récents dont vous parlez. Mais rien que dans le cas de Deauville, c'est le troisième ou quatrième film d'affilée que je vois avec sa structure de la fille a un secret, on sait pas ce que c'est, on l'apprendra dans le dernier tiers du film. Et en fait, on passe deux tiers du film à avoir ce faux suspense de mais qu'est-ce que c'est ? Là, on a dit il faut pas spoiler, donc faut pas le dire. Moi, je pense littéralement que ça, enfin, je pense clairement qu'il s'arrêtait. Non seulement ça aurait été pas gênant, mais même ça aurait été mieux qu'ils le disent tout de suite et qu'ils traitent le sujet littéralement de face tout de suite, parce que là, cette espèce de faux suspense, il est nul, il sert à rien et ça n'apporte pas grand chose, en fait.
C'est presque une projection unique, hein, parce que finalement, si on veut le revoir, en fait, bah, il y a presque plus aucun intérêt, quoi.
C'est un suspense au bout de 30 minutes quand même. Ouais, si on n'a pas découvert son secret, c'est que il y a un problème, quoi. Enfin, c'est quand même assez
oui, évident. Oui, on comprend l'idée, mais c'est juste un peu épuisant, quoi.
Tant qu'on n'a pas vu l'image, en fait, on n'est pas confronté.
Ils nous distillent les indices petit à petit.
Après, je vais être plus indulgente. C'est un premier film. Bon. C'est pas pour ça que ça aurait pas pu être mieux.
Ouais, mais c'est un premier film.
Ça reste un premier film, à voir ensuite ce que ça donnera. Mais c'est vrai que c'est pas du tout original, la structure, on l'a déjà vu 20 000 fois, le scénario aussi. Donc, ce qui par contre est embêtant, c'est qu'effectivement, les films coréens ressemblent de plus en plus à ça, et que je crains que pendant plusieurs années, on se prenne des scénarios avec des pauvres lycéennes qui ont des gros problèmes, et que tout soit raconté en flashback. Voilà.
Nicolas, est-ce que tu partages cette impression
je les rejoins sur le manque d'originalité des films coréens avec toujours la même structure et les mêmes thèmes. Après, c'est pareil, je serais un peu plus indulgent avec le film parce qu'il y a quand même un vrai travail de mise en scène derrière. Il y a beaucoup de, enfin, on va dire que la réalisatrice, le réalisateur fait confiance à son spectateur et ne va pas lui indiquer soit par l'image ou par même les coiffures, machin, quand on va changer d'époque, quand on va revenir dans le passé, quand on va revenir dans le présent. C'est-à-dire que c'est à toi tout de suite de comprendre par toi-même quand exactement on est à telle période ou telle période. Et donc là, je trouve ça pas mal. En plus, il y a aussi Donc au niveau des... Il y a, y a des plans sur des objets, on ne sait pas trop au début pourquoi, et ces plans-là sur certains objets, et on comprend par la suite pourquoi le réalisateur a insisté là-dessus. Et puis il y a aussi l'actrice qui s'en sort vraiment bien, je l'ai trouvée excellente, elle joue très bien, quoi. Elle est très bien dirigée, elle est bien filmée aussi, enfin... Donc, même si ça manque.
Non, les personnages secondaires n'ont aucune substance en fait.
Non, c'est vrai que ces copines dans le présent, ces copines un peu drama là, qu'on retrouve un peu dans les dramas.
Tête à claque, quoi.
Ouais, un peu tête à claque, quoi. Et c'est vrai. Mais sinon, non, pour moi, ça reste quand même un. Parce que c'est quand même touchant, c'est-à-dire qu'on ressent quand même quelque chose par rapport à ce personnage-là et ce qui lui est arrivé. C'est quand même. Même si c'est pas original, c'est quand même. Plutôt bien amené. Après voilà, donc moi je trouve j'ai quand même bien aimé le film.
Je vous propose de passer hors compétition, mais de rester en Corée et de voir. Il y avait deux autres films aujourd'hui hors compétition, dont l'un qui se passait également dans le milieu lycéen, qui s'appelle Sun Young, qui sort en France le 9 avril et qui est connu sous le nom de Pluto. Là aussi c'est le film d'une jeune réalisatrice, enfin, elle a déjà une quarantaine d'années, mais elle a fait que un long métrage et deux courts précédemment,
qui était à la semaine de la critique en 2012 à Cannes.
Merci. Donc il s'agit de Shin Soo-won. Nicolas, tu l'as vu aujourd'hui?
Non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, je l'avais vu quand il était passé au festival, quoi. Mais c'est Fred qui l'a vu.
D'accord. Mais Nicolas, alors vas-y. Si tu peux un peu le résumer.
D'après ce que je me rappelle, que c'est quand même assez lointain. Donc c'est l'histoire d'un. Donc il y a eu un meurtre dans un lycée où ils forment des élites de la société coréenne. C'est-à-dire les 10 étudiants qui vont devenir les personnes importantes du pays par la suite. Et donc l'histoire commence où il y a un de ces étudiants qui est supposé être le number one, le beau gosse, celui qui dirige la bande, qui est mort. Et il y a un autre étudiant qui est accusé, plus jeune, qui est arrivé il n'y a pas longtemps dans ce lycée-là et qui a essayé en fait de s'insérer au milieu de cette élite. Voilà, donc à partir de là, en fait, c'est pareil, on retrouve la structure en flashback.
Oui, c'est lycée flashback.
Voilà, c'est exactement la même chose. Et, et à partir de là, y a toute l'histoire qui se déroule. On passe du passé au présent, du présent au passé. On comprend que la réalisatrice veut vraiment pointer... ce problème de lycéens, enfin de lycées qui veulent former les élites au mépris de tout, de presque de l'être humain en général, et donc elle parle aussi de toute cette concurrence qui s'installe entre ces élèves là qui sont prêts à aller à faire n'importe quoi pour obtenir cette réussite. Donc c'est une violence sourde là qui évolue tout au long du film à travers les flashbacks et qui explose finalement dans le final, littéralement même. Et donc voilà, je vais pas trop spoiler, mais c'est un bon film.
Frédéric, est-ce que tu as apprécié ce film encore?
Je sais pas trop quoi dire en fait. J'ai trouvé ça pas mal, sans plus. Et je vois pas trop quoi rajouter de plus. Je sais pas, je me suis parfois un peu ennuyé poliment en fait, tout en trouvant ça oui correct, on va dire, mais c'est presque insultant de dire qu'un film est correct. C'est pas très réjouissant en tout cas, quoi. C'est dans le genre à nouveau, donc lycée flashback suicide, c'est plutôt bien foutu. Il y a une vraie intelligence du flashback dans un manga, enfin je veux dire au moins ce procédé se justifie et permet de et n'est pas gratuit, quoi. Il sert à quelque chose, ça amène un suspense qui n'est pas putassier mais plutôt bienvenu. Ensuite, je sais pas, Tout ce que je sais, c'est que je suis juste très heureux de jamais avoir été étudiant en Corée. Mais à part ça, c'est quand même une description assez terrifiante quand même de ce que c'est que passer le bac. Moi, le bac, j'avais dit, c'est que j'étais très content. Mais voilà, je préfère...
Oui, parce que c'est pire que le bac, en fait. Le Sonyang, c'est un examen qui permet d'accéder... donc, c'est un examen national qui permet d'accéder à différentes...
Soit tu la rates à ce moment-là.
Voilà, c'est vraiment un moment où la vie des lycéens est définie. Donc, le film aborde quand même de front cette question, effectivement, de la pression... sociétale qu'il peut y avoir sur ces adolescents. Après, moi, j'ai bien aimé l'élargissement de la thématique, en fait, qui est plus sur la place de la jeunesse dans la société coréenne, la manière dont effectivement, c'est plus une question d'insertion, mais en fait, c'est comment vivre en essayant d'échapper à une uniformisation qu'il peut y avoir à travers ce concours. Et justement, la structure en flashback, là tout à l'heure tu parlais sur le film précédent de twist, de mystère, là c'est pas exactement le cas. Enfin, il y a une enquête policière, mais finalement on est plus dans l'explication de ce qui a amené à un moment donné et de ce qui amène à une situation qui n'est pas forcément surprenante dans sa résolution, et l'intérêt n'est pas vraiment là, mais plus d'un parcours qui nous est dévoilé au fur et à mesure. Donc je trouve que c'est assez cohérent aussi avec le sujet du film, finalement.
Juste pour ajouter, c'est vrai qu'il y a aussi un véritable travail sur les apparences, et en fait le secret qui est cultivé par plusieurs personnages dans le film, d'ailleurs, parce que c'est, outre l'intrigue principale et cette enquête pour savoir si donc le jeune est le véritable coupable ou pas, il y a aussi pas mal de personnages secondaires dont on va comprendre un peu les secrets au fur et à mesure. Et c'est pareil dans la façon de filmer le décor, avec cette salle secrète, cet étage secret même, puisque c'est un étage où on ne peut pas accéder sans un code dans l'ascenseur. Il y a tout un stratagème comme ça. Et donc voilà, le film joue sur les décors comme ça pour cacher les couloirs secrets et donc les coulisses un peu de cette école de l'élite.
Moi, il y a juste un dernier truc qui m'a vachement fasciné dans ce film, mais en fait, je ne sais pas si c'est volontaire, si c'est du maquillage ou si c'est juste un hasard absolu. Mais j'ai trouvé l'herpès. Il y a un truc absolument génial, c'est que le personnage, pas principal, mais le gros beau gosse qui est toujours le premier de la classe, qui est le fameux mort, je spoil rien, c'est dès la première scène, il est mort et on veut savoir pourquoi. Il cultive un herpès pendant du début à la fin qui change, hein, qui évolue, qui devient de plus en plus gros. Et donc voilà, et donc c'est le numéro 1, c'est celui qui a un énorme stress, qui doit absolument rester le numéro 1 coûte que coûte, mais qui se la joue absolument beau gosse. Mais il y a ce truc qui trahit son stress, c'est cet herpès, et ça me fascine parce que déjà ça détruit la tronche de beau gosse de ce personnage là et j'arrive pas à savoir si c'est l'acteur qui avait un herpès point barre ou si c'est une idée de mise en scène et de maquillage, et si c'est le cas, au moins il y a ça.
Est-ce que tu veux que je demande à la réalisatrice demain?
Ah, tu la vois demain?
Ouais.
Sans déconner, de première question.
Okay. Je dirais qu'on m'a demandé de poser cette question avant, mais je la poserai. Il y avait un autre film coréen qui était hors compétition et qui là était complètement différent, puisqu'il s'agit d'un film d'animation de Yong Sang-ho, qui est donc son deuxième film, 2 ans après The King of Pigs, qui nous avait déjà bien plu lorsqu'on l'avait découvert à Paris Cinéma, donc en 2012, et qui s'intitule The Fake. Qui l'a vu et qui veut le résumer? Jérémy.
Toujours doué pour résumer les films. Donc, c'est l'histoire... C'est l'histoire d'un petit village de campagne en Corée qui est un peu perturbé par l'arrivée d'un homme et de sa congrégation. Il a une église qui est censée sauver les âmes de ces braves gens. Et donc, ils sont peu à peu endoctrinés et on va suivre un peu, durant tout le long métrage, ce processus d'endoctrinement. Et les répercussions sur tout ce petit monde. Donc c'est assez surprenant comme dessin animé, parce que tout de suite ça nous plonge dans un quotidien très 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 sombre. Encore une fois, la Corée c'est pas encore super drôle comme toujours en festival, et c'est assez froid, assez nihiliste et assez effrayant aussi, mais il y a une patte graphique, il y a un style assez unique qui donne vraiment un côté assez hypnotique à tout ce film là. C'est assez édifiant malgré on en parlait avec Nicolas, c'est pas d'une grande finesse tout le temps, mais il y a ce côté édifiant et tout ce discours sur l'endoctrinement et sur le fait sur l'échappatoire, la religion comme échappatoire à un quotidien assez horrible. Je trouve vraiment le propos assez intelligent, même si c'est pas très finaux par moment, mais c'est très intelligent, c'est coup de poing, ça marque beaucoup, et c'est vraiment un réalisateur qui, je pense, on avait adoré King of Pigs. Je pense que celui-ci il est encore plus abouti, et je pense que c'est vraiment un réalisateur à suivre, parce qu'il y a beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup de talent.
Nicolas, est-ce que tu...
J'ai pas grand chose à rajouter. Juste inciter, ouais, c'est vrai que c'est pas très fin, c'est très hystérique. Beaucoup de cris, de larmes, d'insultes, de pleurs pendant le film. Il y a des personnages qui sont vraiment très très exagérés dans l'écriture. C'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à croire quand même qu'à ce point-là ça puisse exister. Mais c'est vrai que c'est assez édifiant, quoi.
Elvire est pas d'accord.
Je suis pas d'accord avec le fait que les personnages soient exagérés. Je pense que ce sont des situations qui peuvent arriver, en fait, encore à l'heure actuelle.
Encore, ouais, c'est quand même...
Alors oui, ça se terminera pas forcément en meurtre à chaque fois, évidemment, mais l'endoctrinement, ouais, en fait, est peut-être présent encore en Corée, que ce soit dans des petites villes ou même à Séoul.
Pas qu'en Corée, en plus, c'est ça, c'est assez universel comme propos.
Pas qu'en Corée, on est d'accord.
Oui, non,
mais tout à fait.
Non, mais c'est assez universel, et voilà, il y aura toujours des gens crédules et un peu paumés, pas très éduqués, qui pour gober les énormités de ces gens-là qui ne cherchent qu'à s'enrichir et profiter physiquement de ces personnes-là. Je sais pas comment tu peux imaginer que ça n'existe pas.
Je pense qu'en Corée, tout Coréen a au moins un de ses voisins qui est dans cet état-là, en fait. D'accord. Qu'on n'a pas forcément en France. On n'a pas tous une sorte de témoin de Jéhovah à côté de chez nous.
Quand même, hein.
Après, vous avez sans doute raison, il faudrait juste que j'en rencontre un pour le foot des
Il y en a
blagues,
au moins une fois un dans l'année qui vient taper à ta porte. Hein,
C'est vrai, mais c'est pas forcément ton voisin.
Non, certes. Mais...
Après, oui, je l'ai trouvé très brutal. Que ce soit au niveau du dessin, déjà. C'est taillé à la hache.
À la serpe, même.
À la serpe.
Bah, parce que le personnage, un des personnages...
À la serpe.
Tout va bien. que ce soit au niveau, oui, la violence graphique et des dialogues qui sont extrêmement violents aussi.
Moran.
mais extrêmement intéressant. Et 100% coréen. Donc on va pas s'en plaindre non plus tout le temps, en fait.
Il y a plein d'idées de mise en scène en plus. Il y a plein de petites idées graphiques. Par exemple, j'ai un peu le souvenir de quand il y a deux personnages, une scène d'action, deux personnages qui vont se battre et qui courent. Il y a un mouvement qui se crée par le trait. Il y a des petites idées visuelles comme ça qui font que le film a vraiment un style unique. Et une patte, voilà, l'auteur il a une patte reconnaissable entre mille, et rien que pour ça, je trouve que ça a vraiment le mérite d'être vu. Et pour une fois, quoi, c'est vraiment un discours mature, un film mature, intelligent, et c'est vraiment un film vraiment à découvrir si vous avez l'occasion.
On peut espérer une sortie en France dans la mesure où son premier film avait été diffusé. Un autre film d'animation était exactement présenté hors compétition. C'était Pleasant for You de Yoshihiro Dai. Frédéric, tu as vu les 10 premières minutes, donc tu peux nous résumer le film.
Oui, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, je me suis barré, quoi.
Je me suis barré pour des raisons autres que le film me saoulait, mais je suis parti sans me dire que j'avais loupé un grand moment. Et les autres me l'ont confirmé après, et je promets de le dire.
Bah écoute, je crois qu'on regrettait de ne pas t'avoir suivi à peine 5 ou 10 minutes après ton départ. Donc oui, c'est une œuvre qui est assez ratée, qui joue en fait entre prise de vue réelle et des acteurs qui sont sur jeu d'ailleurs, enfin qui surjouent absolument tout le temps en roue libre. Et des images animées. Alors, je crois que c'est des marionnettes, toute la pâte, c'est des marionnettes. Hein. Voilà, l'effet pourrait être bien, mais en fait, n'a aucune justification narrative dans le film, donc on comprend pas vraiment pourquoi cet effet existe. L'histoire est assez, on va dire, rocambolesque ou assez incompréhensible. On a raté les premières minutes aussi parce que la séance précédente se terminait un peu en retard. Et en gros, ça tourne dans un milieu de racket, dans un milieu mafieux, dans un petit village où tout le monde est censé être ami. Un des drames du film, c'est que ça pourrait vraiment être une pièce de théâtre. Hein, et on a l'impression qu'il y a un surjeu tout le temps, des effets complètement inutiles de mise en scène, hein, de passage en animation pour ajouter du rythme. Là où finalement on est dans du théâtre filmé pendant tout un long métrage. Quoi.
D'ailleurs, les trois quarts, enfin ouais, une bonne grosse moitié du film se passe dans le même décor, quasiment avec les mêmes plans. C'est-à-dire qu'il a dû prendre, ouais, il a dû choisir trois axes de caméra et il a tourné les trois quarts, enfin la moitié de son film avec ses axes de caméra dans ce décor-là. Quoi. Donc en mixant entre l'animation et enfin son petit théâtre de marionnettes et prise de vue réelle sans aucune cohérence. Donc c'est ouais, complètement inintéressant.
Ouais, il y a un petit côté théâtre de boulevard un peu avec des acteurs un peu en roue libre et qui en font des caisses et avec un scénario un peu bas de gamme et il y a un petit côté bien chipose dans tout le film avec les couleurs. Il y a une fantaisie un peu forcée. Il essaye de je fais pas comme les autres. J'essaie de un petit traitement original. Je suis un peu fantaisiste. Je suis un peu je suis un peu hors du truc, mais finalement, ouais, il y a un petit côté théâtre de boulevard raté avec des acteurs. Pourtant, voilà, il y a Joe Daguerre, il y a l'acteur qui est dans The Land of Hope, qui est décédé récemment. Mais c'est des très très bons acteurs quand ils sont bien dirigés, mais là, ils sont pas dirigés du tout et ils font un peu n'importe quoi. L'humour est inexistant et.
Et d'autant que ça dure très longtemps, parce que comme tu le disais, Frédéric, c'est une idée de... En tout cas, pour la mise en scène, c'est presque une idée de court-métrage. Et sur une heure et demie, au bout de 20 minutes, ça devient vite insupportable. On va revenir en compétition, même si je ne vois pas de rapport entre Present For You et Najima, qui est le film kazakh de cette année. Donc là aussi, je crois que c'est un premier film de Zana. C'est un.
Des très rares non-premiers films.
Là aussi, je croyais à tort que c'était un premier film, mais en fait, c'est un quatrième film de la réalisatrice très célèbre au Kazakhstan, Zana Isabayeva. Julien, tu nous as dit hier que c'était ton coup de cœur. De quoi parle le film et pourquoi l'as-tu tellement aimé ?
Je vais faire le synopsis. Alors au niveau du synopsis, je me rappelle plus du nom de la perso. Hein, perso.
Najima.
Ah Najima, voilà, tout à fait. Voilà, ça commence bien, ça m'a marqué. Hein, t'as vu ça. Donc c'est Najima, l'histoire d'une jeune fille orpheline kazakh qui habite pas un bidonville, mais c'est vraiment qui vit dans un milieu très précaire avec une amie à elle, donc une amie d'enfance, et il y a aussi une petite prostituée qui se balade dans le coin, quoi. Et on suit un petit peu l'évolution de la relation entre les trois personnages, plus sa vie professionnelle, où je crois aller à faire un truc dans une cuisine, je sais pas exactement son rôle, mais... je crois à nettoyer les plats, voilà, femme de ménage dans une cuisine.
Elle est commis dans une cuisine.
Voilà, elle est commis dans une cuisine. Et y a son amie d'enfance qui est enceinte et qui va finir par mourir, par accoucher. Bon, ça fait un peu spoiler, mais elle n'irait pas là. Bon, ok, Marc est là. Bon, désolé, Marc. Et bon, pourquoi j'ai aimé le film ? Alors, quand on en a parlé en off avec Fred ce matin, ça se décline en trois parties. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. La première partie, moi j'ai trouvé ça un petit peu lourd en fait, j'ai trouvé ça un petit peu trop cliché. J'ai pas vu beaucoup de films kazakhs, mais c'est à peu près toujours la même chose. Ça va vraiment très mal quoi. Et là, ce qui a sauvé la première partie pour moi, c'est la forme avec une très belle photo et particulièrement l'utilisation de l'arrière-plan. Ce qui m'a persuadé à continuer, et finalement il y a eu un glissement au niveau du personnage principal et je me suis de plus en plus attaché au personnage. Et il y a vraiment une scène bouleversante que je ne raconterai pas pour Marc, mais qui m'a vraiment transparé une telle sincérité que tout de suite ça a élevé le film. Et il est venu qui a basculé ensuite dans une troisième partie beaucoup plus morbide, qui peut faire penser par exemple au truc du festival, enfin le primé du festival de Cannes, 4 mois, 3 semaines et 2 jours, un peu le même genre. Dans un autre ordre, mais il veut dire la finalité, c'est un peu pareil.
Bah non,
pas.
Je peux pas dire ça, oh mon dieu.
Bref. Non, ça, voilà. Mais voilà, qui m'a beaucoup plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la forme, en tout cas. Au niveau de la forme, il y a une très grande maîtrise. J'ai trouvé des plans très intéressants, dont un qui est en diagonale sur une autoroute que j'adore. Et c'est vrai que le fond est assez est lourd dans un premier temps. Il n'y a pas non plus de très original. C'est vrai qu'1h12, ça aurait pu faire un excellent court-métrage. Mais voilà, c'est quand même un très bon...
Donc t'aurais coupé 13 minutes, en fait.
Ouais, j'aurais fait un moyen-métrage. Ouais. J'aurais peut-être désalourdi, entre guillemets, la première partie pour tout de suite basculer vraiment dans le vif du sujet. Et le film a été présenté à Berlin en 2013. Elle avait fait d'autres films avant, qui avait fait aussi un parcours, un circuit festivalier intéressant. Et je pense que c'est une réalisatrice kazakh à suivre, parce qu'elle fait partie, je pense, de la nouvelle vague qu'on a avec le réalisateur de Leçons d'harmonie, dont j'ai oublié son nom, Emir, je sais pas quoi.
Magazine.
Voilà, Magazine. Et je pense que c'est intéressant, même si j'attends un film kazakh drôle, quoi, parce que je vois qu'il n'y a que des films kazakh vraiment. Voilà, je vois un nouveau Aiguille quoi, de Rachid Nurmagomedov, parce que là, bon, ça fait vraiment. C'est dur, quoi.
Frédéric, tu.
Non, je suis d'accord. Bah, comme dit Julien, il y a trois. C'est un film en trois parties très distinctes. Comme disait Julien, à nouveau, je pense que tu vires la moitié des séquences de l'acte 1 et de l'acte 2. Ça fait un court-métrage qui pourrait être sympa, mais en l'état, c'est trop long. Ça met trop de temps à démarrer. Ça se démarre, à mon sens, à la fameuse scène qui t'a ému et qui m'a ému aussi, mais qui conclut, entre guillemets, l'acte 2 et qui amène ensuite l'acte 3, qui est vraiment très intéressant, morbide certes, mais très intéressant, où enfin on se dit il se passe quelque chose et ça dit des choses et je peux pas aller plus loin sans spoiler, donc je ne vais pas spoiler, mais c'est trop tard quoi. Quand ça arrive, moi j'ai trouvé ça trop tard. Tout ce que j'ai retenu, c'est que je me suis emmerdé et que j'ai suivi cette femme qui ressemble à Droupy en version live et dépressive. Je sais pas, c'est. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, c'est juste ça.
Nicolas, tu m'as dit que t'aimais beaucoup la mise en scène, hein, notamment dès ce premier acte. Hein.
Non, c'est juste la scène d'introduction en fait. Je trouvais que cette. Cette immersion dans cette cuisine était plutôt réussie. C'est un style un peu documentaire, mais je trouvais que c'était très bien filmé. La façon dont le personnage est d'abord plongé au milieu des autres, puis se détache dans la scène, en fait, pour la présenter, finalement. Et je trouve ça très réussi. Après, c'est vrai que je l'ai rejoint pour la suite de l'acte 1. C'est vrai que c'est très lent, il ne se passe pas grand-chose. Le film est très sombre, encore une fois, comme tu disais. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans les personnages secondaires, par exemple la prostituée, mais aussi l'épicier ou le docteur, dans d'autres films, il l'aurait laissé dans sa merde, quoi. Alors que là, ils vont quand même l'aider, quoi. Ils ont un peu pitié d'elle, et donc ça offre des respirations au film qui le désassombrit un peu, quoi.
Très bien, donc dans l'ensemble, on conseille quand même ce Najima. On va terminer avec Marc et le dernier film donc, que tu as vu qui était dans l'hommage.
La sélection sri-lankaise. Donc c'était le dernier film projeté, donc le troisième, qui s'appelle Le Trésor, qui a été sorti en 72 et qui est considéré par les critiques sri-lankais comme le chef-d'œuvre national. Alors déjà, il y a eu un petit problème technique au niveau de la projection du film, qui a été restauré en 2013. Mais le problème, c'est que les sous-titres ont été mis en blanc, et comme le film est en noir et blanc, il y a la moitié des sous-titres qu'on ne peut pas lire. Ce qui fait que déjà, il y a la moitié des spectateurs qui sont partis au bout de 10 minutes, et que du coup, ça ne facilite pas la compréhension du film, et que ça en devient même agaçant, et que du coup, on se focalise plus sur les sous-titres qu'on rate, plus que sur le film qu'on est en train de voir. Donc, les conditions de vue n'étaient pas optimum, on va dire. Alors, bon, pour présenter le film, ça c'est extrait d'un conte folklorique sri-lankais assez connu là-bas. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui est un héritier d'une riche famille, mais qui est oisif, c'est un peu un esthète. Et il refuse de travailler, mais il n'a plus d'argent, il est endetté, mais il refuse de vendre la maison familiale. Et donc, du coup, pour... pallier à ses dettes, pour rembourser ses dettes, il se met à croire à une légende qui dit que quand on égorge une vierge qui a 4 grains de beauté sur le visage sur un rocher dans un village quelconque, il y a un trésor qui lui sera découvert, qui lui sera offert. Et donc il pense qu'il va vraiment pouvoir rembourser ses dettes grâce à ça. Et bon, il trouve une femme, et ensuite tout ce qui correspond aux critères de sélection. Et du coup, au début, il veut vraiment l'assassiner pour couvrir ses dettes, mais ensuite, il commence à être un petit peu amoureux d'elle, et du coup, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, s'il doit la tuer ou s'il doit la laisser vivre. Et le film, il y a très peu d'action puisque c'est surtout un film psychologique. Donc, en gros, le spectateur suit véritablement les atermoiements du cœur et les états d'âme du personnage principal. Est-ce que je dois tuer ma femme ou est-ce que je dois la laisser vivre? Et il y a beaucoup de scènes qui sont un petit peu fantasmagoriques avec des scènes de rêve et également des scènes où le personnage s'imagine, par exemple, danser avec sa mère ou danser avec une femme. Enfin, il y a des scènes qui sont vraiment très très belles. Mais bon, du coup, le film, j'ai pas pu l'apprécier vraiment à sa juste valeur. Mais sinon, tout l'arrière-plan du film est assez bien. Les décors sont très très beaux, la maison est très très belle. Et... il y a un côté vraiment décadence fin de siècle qui fait penser un peu à ce qu'on trouvait en France à la fin du 19e avec des écrivains comme Huysmans ou Octave Mirbeau ou Rémy de Gourmont, où c'est vraiment très 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 décadent et le personnage principal est vraiment, il colle à fond sur ce sujet. Donc il va falloir que je m'intéresse un petit peu à ce conte folklorique pour savoir d'où il vient, etc. Mais je pense que ça peut être intéressant. Donc... chef-d'œuvre du cinéma sri-lankais, je sais pas trop, mais bon, ça pouvait aller, mais je trouve que le film a quand même un petit peu daté. Et j'avais préféré Les Wasps sont arrivés. Mais bon.
Très bien.
Bon, bah donc ça, c'était pour tout ce qui était hors compétition. On va revenir pour un dernier et ultime tour de table sur la compétition. Quel sera le grand prix demain, selon vous, Marc?
Alors, au niveau des films en compétition, je crois que j'en ai vu que 2 ou 3 pour l'instant. Moi, c'est No Man's Land des films en compétition qui m'a le plus plu. Donc, je ne sais pas trop après à quoi m'attendre.
Nicolas ?
Moi, c'est toujours No Man's Land aussi. Après, il me reste Trapped et Matter Dolorosa à voir. Donc, pour le film qui aura le grand prix, Najima a peut-être des chances, ouais, d'avoir touché le jury, en tout cas, ou Claire Denis.
Jérémy ?
Bah, moi, j'ai préféré No Man's Land, mais je mets une piécette sur Trapped, quand même. Je pense que ça peut le faire.
Elle vient ?
Il me reste des films à voir en compétition. J'ai loupé No Man's Land par manque de courage.
T'as vu Les Chiens
Errants,
maintenant ?
Oui, j'ai vu Les Chiens Errants, oui. J'aurais peut-être dû voir l'inverse. Pour le prix, peut-être Han Gong-joo, qui a eu l'air... bon, après, il a eu l'air de plaire au public, donc c'est pas forcément au jury non plus. Mais c'est possible qu'il remporte le prix aussi.
Julien ?
Non, je reste toujours sur mon avis d'hier, et toujours une petite piécette sur Najima, même si je sens le Toilet Blues ou Mater de la Rosa qui va sortir. Tu vas voir, tu vas voir.
Frédéric.
En partant du principe que j'ai toujours pas vu Ugly et Nomad's Land, mon préféré personnel, ça reste Still Cold Winter, sans être non plus fan absolu. Et en même temps, Najima, ouais, c'est possible aussi, j'y crois.
Bon, moi je fais confiance à Claire Denis et je pense que ça sera Ugly, car c'est tout simplement le meilleur film de la compétition. Donc on verra demain, on commentera le palmarès donc juste après donc 20h30, on aura le palmarès sur le site et quelques heures après, on va dire à 3h du matin, vous pourrez écouter notre podcast donc qui commentera ce palmarès. À demain.
À demain.
Salut.
Ciao.